Je voudrais juste lire une petite parole avant la, une parole courte avant la prière tirée de l'épître aux Hébreux, du chapitre 12, dès le verset 1, quelques versets. Hébreux 12, verset 1. Ainsi donc, nous aussi, en nous voyant entourés d'une telle nuée de témoins, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit et du péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec une ferme persévérance dans la compétition qui nous est imposée. Verset 2, ayant les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Lui qui, au prix de la joie qui l'attendait, a souffert la mort sur la croix et a tenu pour rien l'opprobre, mais s'est ensuite assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3, oui, pensez à lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas et que vous ne perdiez pas courage. Jusque-là, cette précieuse parole. Paul s'adresse à ses contemporains et il donne ici l'exhortation au peuple de Dieu. Aujourd'hui, elle s'adresse à nous. Que nous, surtout comme il est écrit au verset 3, oui, pensez à lui, que nous devons nous souvenir de lui en tout temps, en toute situation, dans toutes les circonstances de la vie. Car nous voyons qu'il est écrit ici de sa part, oui, souvenez-vous de lui qui a supporté avec patience une telle contradiction, une telle opposition de la part des pécheurs à son égard. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi, frères, chers frères et sœurs, quoi qu'il arrive, de ne pas nous lasser, de ne pas nous fatiguer, de ne pas devenir nonchalant, mais de lever les yeux et de penser à lui comme il nous a précédés sur le chemin jusqu'à la croix du calvaire. Il n'a regardé à rien. Il a suivi le chemin qui lui était préparé. Il aurait pu en choisir un autre, mais il a choisi celui-ci pour que toi et moi nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés par lui. Il est allé, il a souffert la mort sur la croix et il a méprisé la honte. Louange et remerciement. Et ensuite, il est dit, il est à la droite du trône de Dieu. C'est là qu'il est assis. Et c'est ainsi que nous aimerions nous aussi persévérer patiemment dans tout ce qui peut arriver. Quoi que les hommes puissent dire, il ne regardait pas non plus ce que disaient les scribes, ce que disaient les pharisiens, ce que disaient tous les hommes. Il ne s'en préoccupait pas. Il savait ce qu'il avait, ce qu'il était venu faire et il suivait son chemin. Je pensais ainsi, chers frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce. Le Seigneur nous a choisis, nous a élus. Il a fait de nous son peuple, afin son peuple qui lui appartient, afin que nous soyons nous aussi comme lui. Et un auteur de chansons dit, Jésus, je veux devenir semblable à toi. Nous voulons lui ressembler en tout sur cette terre déjà. Et pensez ensuite toujours à lui. Nous souvenons de lui à tout ce qu'il a accompli pour nous. Comme il est allé, ce qu'on lui a fait. Si c'est à lui que l'on a fait cela, bien-aimé, nous ne serons pas épargnés dans ces jours. Que Dieu nous aide tous. Oui. Et puis Paul dit aussi ici, et il nous présente tous les hommes de Dieu, les nuées de témoins. Si nous lisons le chapitre précédent, tous ces hommes sont désignés, tous sont énumérés par leur nom, peut-être même pas tous, mais un grand nombre d'entre eux qui ont persévéré dans les paroles de Dieu et qui ont écoutez ce que Dieu leur a dit. Et nous aussi, nous devons écouter ce que Dieu nous a dit. Nous ne pouvons pas écouter ce que disent les hommes, sinon nous sommes perdus, sinon nous sommes confondus. Mais regardons à lui, l'auteur de notre foi et celui qui l'a rend parfaite. Il n'a pas encore changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce soir encore, nous voulons élever son nom et nous voulons lui demander de continuer à nous parler par sa chère et sainte parole. Et je crois qu'il ne nous a jamais abandonnés jusqu'à présent. Il nous a toujours offert la bonne nourriture et la bonne eau. Prions-le donc de nous bénir ce soir encore de la richesse de sa grâce. Levons-nous pour cela. Père céleste, nous te remercions ensemble pour cette heure du soir et pour cette réunion. Seigneur, nous sommes si heureux d'être à nouveau réunis ici pour rendre gloire et louange à ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons toujours penser à toi, nous souvenir de toi, de ce que tu as accompli pour nous, de ce que tu as fait pour nous sur le bois de la croix à Golgotha. Oui, aussi, ce que tu as fait pour nous en ces jours, car tu as fait de grandes choses. Tu t'es fait connaître avec puissance, Seigneur, et tu as révélé, Seigneur, ce qui était caché. Et tu as ouvert beaucoup de cœurs, et tu as ouvert beaucoup de sens, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre ton appel et ton signe en nos jours. Dieu fidèle, nous te remercions. Ce soir encore, nous sommes si heureux, Seigneur, de pouvoir être ton peuple, tes élus, ceux que tu as appelés et choisis avant la fondation du monde. Dieu fidèle, nous t'adorons et te prions de continuer à nous bénir aujourd'hui. Bénis tous ceux qui sont venus et aussi tous ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui, qui sont encore partis, Seigneur, en vacances ou où qu'ils soient ou au travail, bénis-les tous, Seigneur, c'est notre prière. Bénis aussi tout ton peuple, Seigneur, partout, en tout lieu, Seigneur, dans tous les pays, Seigneur, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Parfois, quand nous regardons ce monde, nous pensons que ce sont les hommes qui dirige. Et quand il parle, on a l'impression que la moitié du monde entend. Mais un jour, le monde entier entendra. Aujourd'hui, l'Occident entend ce que dit l'homme le plus fort de l'Occident. L'Orient entend ce que dit l'homme le plus fort de l'Orient. Et les autres n'entendent pas du tout, peu importe qui parle. Mais un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Et en tant que Seigneur, il est Dieu. Et en tant que Dieu, il est au-dessus de tout. Il était avant tout et il sera quand tout aura été réduit en cendres. Et que tout sera redevenu neuf, le Seigneur, tout cela sera redevenu nouveau. Le Seigneur sera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous pouvons nous réjouir d'être du côté du vainqueur. Après tout, il a vaincu. Vous savez, à la guerre, il y a parfois des gens comme ça qui sont toujours là quand ils le peuvent, là où la victoire est en vue. C'est là qu'il vaut mieux être. Mais avec Dieu, la victoire est déjà un fait accompli. Tout lui est soumis. Et Paul écrit, il n'est pas encore manifeste que tout lui est soumis. Mais lorsque le dernier ennemi, la mort, lui sera soumis, alors s'accomplira la parole. La mort est engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Il y a bien sûr des choses qui m'émeuvent depuis ce week-end et surtout depuis la réunion de Zurich. Je suis conscient que nous entrons dans une nouvelle phase, ou plutôt que Dieu l'entame. Il faut et il faudra que la révélation de la parole soit suivie de la révélation de la puissance de Dieu. Soit suivie de la manifestation de la puissance de Dieu. Il ne peut en être autrement. Dieu est fidèle à sa parole. Il tient ses promesses. Et si nous avons compris que Dieu a un plan et qu'il a un plan avec nous, avec toi et avec moi, que nous avons été inclus, englobés dans ce plan de Dieu qu'il a pour nous, que nous faisons partie intégrante du royaume de Dieu. Alors, Dieu ne pourra pas faire ce qu'il fait à notre place, mais avec nous et par nous, comme ce fut le cas au commencement de l'Église. Le Seigneur mettra son plan, son dessein à exécution, Il faut donner raison à Dieu en tout, car il a raison. Chaque parole de Dieu est une vérité absolue. Et cela m'a fait penser, qui est vraiment l'homme? Qui es-tu et que suis-je? Qu'est-ce que nous sommes? Et je devais dire, le Seigneur a été le premier à introduire la peine de mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort s'est donc étendue à tous les hommes. Et qui doit s'attendre à une peine de mort? Si nous entendons un tribunal terrestre, les petits délits ne sont jamais passibles de la peine de mort. Il faut déjà un crime énorme pour que la peine de mort soit envisagée. La chute de l'homme, la désobéissance, la transgression et tout ce qui s'y rapporte était un tel crime devant Dieu. Il a décrété la peine de mort pour toute l'humanité. Et il n'y a personne qui puisse se soustraire à ce jugement de Dieu. Et puis nous lisons de notre Seigneur qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, qu'il a pris sur lui la peine de mort et qu'il est mort pour nous sur la croix à Golgotha. Ésaïe 53, 12. En tant que sans péché, pour tous les criminels, vous pourriez dire, oui, frère Frank, est-ce vraiment le cas? Oui, mais aux yeux de Dieu, mais si, aux yeux de Dieu, nous avons tous effectivement reçu la peine de mort, tous. Ou bien pensez-vous qu'il y a quelqu'un sur terre qui ne serait pas un criminel aux yeux de Dieu, alors qu'il continue à vivre aussi longtemps qu'il le souhaite? Ce n'est pas possible. La mort s'est infiltrée chez tous les hommes. Mais parmi ces personnes, il y a des gens qui ont reçu la vie éternelle, qui ont compris que notre condamnation a été mise sur lui et que nous avons reçu la vie éternelle par la foi en notre Seigneur et Sauveur. Je crois que Dieu nous a accordé tant de grâce et nous n'exagérons pas que nous avons pu rester sobres, que nous avons ancré nos racines dans la parole de Dieu et que comme Paul l'écrit aussi aux Hébreux, nous avons amarré notre ancre jusque derrière le voile, derrière le rideau. Hébreux 6, 19, nous n'avons pas colporté des déclarations ou des versets bibliques isolés, mais nous avons laissé le témoignage global des Saintes Écritures s'appliquer et nous parler. Et nous croyons que Dieu a une troupe dans laquelle il se révélera, se manifestera, des hommes comme nous l'avons déjà entendu. La chorale l'a également souligné, vous devez naître de nouveau. Et la pensée qui m'est venue tout à fait nouvellement, maintenant dimanche, c'est que la nouvelle naissance ne peut se produire que par la semence divine, à savoir la semence de la parole, de la parole. Et tant qu'il y a eu un mélange, même religieux, ce sont des bâtards qui sont nés. Il s'agissait d'un mélange et aucun d'entre nous ne peut y échapper. Nous devons donner raison à Dieu. Mais depuis que la pureté de la parole est là et que la semence de la parole est disponible, elle peut pénétrer dans notre âme et produire quelque chose de nouveau par la grâce de notre Dieu. Et cela, nous le croyons de tout cœur. Au commencement, il en était bien ainsi et les apôtres l'ont écrit. Pierre, par exemple, écrit ici dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être manifesté dans les derniers temps. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7, c'est en effet par là que l'authenticité de votre foi doit être éprouvée et qu'elle doit être trouvée plus précieuse que l'or, qui est corruptible, mais dont l'authenticité est éprouvée par le feu et qu'elle doit se manifester à la louange, à l'honneur et à la gloire. Pour vous, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8, vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas maintenant. Et vous poussez vers lui des cris de joie, inexprimables et comme transfigurés. Verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de votre, de vos âmes pour prix de votre foi. Quelle parole précieuse et merveilleuse avant la fin de ce chapitre. Les paroles suivantes ont été écrites à partir du verset 22. Pierre 1, verset 22, maintenant, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, sans hypocrisie, aimez-vous profondément les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23, vous êtes en effet nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, à savoir de la parole vivante de Dieu qui demeure éternellement. Je vais peut-être lire le verset suivant, car c'est la fin du verset qui compte. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se fane, et sa fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est ici la parole qui vous a été annoncée comme message du salut. Ça, c'est le résumé de l'Évangile. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes ici comparés à l'herbe, car toute chair, même toi et moi, et il nous suffit de regarder autour de nous, dans les maisons de retraite, les maisons de soins, et cela ferait du bien à tous, dès l'enfance, quel que soit leur âge ou leur jeunesse, de regarder comment des personnes qui étaient jeunes, en bonne santé et fortes, vont vers leur fin. Sur terre, rien n'est plus certain pour tous les vivants que la mort. Nous le savons tous. Et l'on voit qu'une fleur est glorieuse, même quand on regarde les roses, oh, elles ont des couleurs magnifiques et on sent le parfum est là et soudain, elles ne sont plus. Elles s'épanouissent et le vent souffle sur elles, le soleil se pose sur elles et elles disparaissent. Il est écrit ici, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme les fleurs de l'herbe. Toute la gloire terrestre, la gloire de ton corps et de mon corps, regardez-la donc, surtout les jeunes femmes ou les sœurs, quelles qu'elles soient, pas quand elles sont jeunes et qu'elles aiment tant se regarder dans le miroir, qu'elles se voient et que tout leur plaît. Et puis vient le moment où le vent tourne, les cheveux commencent à grisonner, on aimerait repousser un peu tout cela, peut-être même le dissimuler. On ne peut pas le nier, tout devient soudain très différent. La gloire de toute chair est comme la fleur de l'herbe. Et quand on voit, nous l'avons vu en particulier en Israël, cette splendeur de couleurs là où tout le monde a si bien photographié. Et si nous y allions aujourd'hui, il n'y aurait plus rien. Tout est desséché. Il ne reste que le souvenir. Verset 24, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Verset 25, mais la parole de l'Éternel, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Il y a des hommes qui, dans cette enveloppe mortelle, dans ce corps mortel, ont incorporé, reçu quelque chose d'immortel, à savoir la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont été immortalisés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la vie éternelle. Il est dit ici, verset 23, vous êtes en effet né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. C'est-à-dire, par la parole vivante et éternelle de Dieu. Et donc, nous avons la vie éternelle par la grâce de notre Dieu. Ensuite, dans le verset 25, c'est ce qui nous importe le plus. Il est dit ici, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est la parole qui vous a été annoncée comme évangile ou comme message de salut. La parole de Dieu est en même temps l'évangile de Jésus-Christ. Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament, et nous pouvons aussi le lire dans cette lettre de Pierre, ont dit, et ici il a été écrit à partir du verset 10, 1 Pierre 1, verset 10, au sujet de ce salut, les prophètes ont réfléchi et fait des recherches, eux qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous a été accordée, cherchant à découvrir quel était le temps que l'Esprit du Christ agissant en eux indiquait, lorsqu'il leur attestait d'avance les souffrances destinées au Christ et ses gloires qui suivraient. Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sur la grâce et nous l'avons reçue. Mais ils ne partiront pas les mains vides. Ils seront dans le royaume de Dieu tout comme nous. C'est d'ailleurs écrit dans l'Épître aux Hébreux qu'ils n'ont pas pu atteindre la perfection sans nous et qu'ils attendent seulement que nous les rejoignions. Peut-être lisons-nous le dernier verset d'Hébreux 11 où sont énumérés les héros de la foi. Et voici peut-être les deux derniers versets. Hébreux 11, versets 39 et 40. Verset 39. Et tout cela, à la foi desquels il fut pourtant rendu témoignage, n'ont pas obtenu l'accomplissement de la promesse. Verset 40. Parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, il ne devait pas atteindre la perfection céleste sans nous. Ils parviennent à la perfection, mais pas sans nous. Ils attendent jusqu'à ce que le nombre complet de l'Église du Nouveau Testament soit entré et alors s'accomplisse ce que notre Sauveur lui-même a dit. En ce jour-là, vous serez assis dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Et voici ce qui arrivera. Imaginez-vous que vous et moi soyons un jour assis à la grande table du royaume de Dieu avec tous les prophètes, avec tous les hommes de Dieu, et même avec notre Seigneur. Comment nous sentirons-nous? Je vais vous le dire. Même Abraham et les plus grands serviteurs de Dieu ne seront là que par grâce. Aucun ne pourra se vanter de son mérite et aucun ne pourra se plaindre de son démérite. Tous sont sur le même pied et tous ont été rachetés par le sang, par le même sang. Et lorsque nous lisons Matthieu 27, lorsque le Seigneur a versé le sang à Golgotha, son sang à Golgotha, et s'était crié, tout est accompli. Oui, il y eut un tremblement de terre. Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de saints endormis sortirent de leur tombe après sa résurrection. Il faut également lire le verset, les versets 51 et 52, si lentement et avec attention, pour comprendre exactement l'ordre des choses. Il nous est dit ici qu'il ne devait pas parvenir à la perfection sans nous, bien qu'il portait tous en eux le glorieux témoignage de la foi et qu'ils auraient déjà aimé contempler la perfection. Non, ils devaient attendre que leur temps et notre temps soient venus. Ici, j'avais encore une parole que je voulais lire en relation avec la parole d'introduction, car notre Seigneur a aussi beaucoup souffert. Il l'a supporté et nous croyons que c'est lui qui nous aide dans toutes nos épreuves parce qu'il a dû les traverser lui-même. Et comme nous l'avons lu, il a dû supporter patiemment les épreuves. Mais j'ai lu tout à l'heure une parole dans l'épître de Pierre qui était parfaitement exacte et adéquate. Ici, c'est peut-être ici dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, du verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset 21. Il n'a pas commis de péché et il ne s'est pas trouvé de fraude dans sa bouche. Verset 23, quand il a été insulté, il n'a pas insulté de nouveau, et quand il a souffert, il n'a pas proféré de menaces, mais il a laissé cela à celui qui juge avec justice. Et si nous voulons revenir à la prophétie que Siméon a faite, vous pouvez la lire dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 2. Il est écrit ici, Luc chapitre 2, du verset 34. Siméon, Luc 2, 34, les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache bien que Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Le fait qu'il a été contredit, nous l'avons tous lu, qu'il ait dû tout supporter, comme il est écrit en Hébreux 12, a déjà été prédit. Cela a déjà été prédit. Quand il est écrit ici dans Hébreux 12, verset 3, « Oui, souvenez-vous de lui qui a supporté avec patience une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez pas et que vous ne perdiez pas courage. » Hébreux 12, verset 3, l'ont contredit et même lui ont voilé la tête et l'ont frappé. Puis l'ont enlevé et ont dit, « Tu as si bien prophétisé, dis-nous maintenant qui t'a frappé. » Et il n'a rien fait. Il n'a pas mis le poing dans sa poche. Il a tout laissé passer. Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Nous serions certainement furieux. Nous voulons être sincères. Mais ici, notre Seigneur nous a laissé un exemple. Et imaginez ce que nous ressentons, ce qu'il a dû ressentir. Lui, le Seigneur de gloire, le roi des rois, qui était venu pour sauver, racheter, chercher ce qui était perdu, sauver, apporter la grâce et le salut. Et il a dû regarder et expérimenter sur lui-même ce qui est écrit dans Jean 1. Il est entré, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La douleur, nous ne pouvons pas l'imaginer. Nous ressentons déjà une profonde douleur dans nos cœurs. Qu'a-t-il pu ressentir? Mais ici, Siméon avait prophétisé. Sache bien que celui-ci est destiné à la chute et au relèvement de plusieurs en Israël et qu'il est un signe auquel on s'opposera. Et puis, après tout, Paul n'a pu que constater, comme Siméon l'a prophétisé, il en a été de même ensuite. Oui, souvenez-vous de lui qui a supporté avec patience une telle contradiction de la part des pécheurs à son égard. Hébreux 12, verset 3. Si quelqu'un te contredit, me contredit et nous dit ceci ou cela. Bon, ça va, nous sommes tous des hommes et comme je l'ai dit, plutôt la peine de mort et de toute façon a été prononcée contre nous et nous savons tous ce que cela signifie. Mais lui, notre Seigneur, mais nous concernant, il n'y en a pas un qui soit exempté. Mais lui, notre Seigneur, le Saint, oui, pensez à lui. Que Dieu m'inscrive cette parole dans le cœur. Que je pense à lui, à mon Rédempteur. Pourquoi mon chemin d'enfant de Dieu racheté devrait-il être différent du chemin de mon Rédempteur qui a payé le prix? Il doit y avoir une similitude avec la voie, avec le chemin du Seigneur. Et les Saintes Écritures disent, malheur à vous, dans le sermon sur la montagne, malheur à vous si le monde entier parle en bien de vous. Mais vous pouvez bien sûr aussi comprendre que s'il y avait chaque jour une presse chrétienne, mon nom y figurerait chaque jour en gros titre avec de nouvelles histoires et ce n'est pas une chose facile. Mais si je lis maintenant ici, oui, pensez à celui qui a supporté avec patience une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui. Hébreux 12, 3. Notre Seigneur n'aurait-il pas pu dire à chacun qui il est, ce qu'il est? N'aurait-il pas pu mettre chacun à part, qu'il n'en reste plus rien? Et n'aurait-il pas eu pour résultat que chacun se retire, frappé par les paroles du Seigneur, convaincu de péché puni par l'Esprit de Dieu? Non. Ils ne l'ont pas reconnu. L'Esprit de Dieu doit ouvrir le cœur d'un homme. Le Seigneur de gloire n'a pu sauver personne à moins qu'il ne soit venu se faire sauver. Et c'est bien pour cela qu'il est écrit, « Venez à moi, vous tous, extrémités de la terre, et vous serez sauvés. » Ésaïe 45, verset 22. Et le salut devait en effet venir de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Oui, souvenez-vous de lui. Hébreux 12, je veux m'en souvenir. C'est une parole qui me parle personnellement beaucoup. Oui, pensez à lui. Nous pensons alors à nous. Hein. Et nous tournons autour de nous-mêmes en disant, oui Seigneur, pourquoi tout cela? Si nous pensons à lui, nous réussirons certainement mieux à tenir bon et à dire, Seigneur, cela fait partie de ta parole en ce temps. Toutes les difficultés par lesquelles je pourrais passer. Qui a supporté, verset 3, patiemment une telle contradiction de la part des pécheurs à son égard, des pécheurs à son égard? Et maintenant, voici le sens et le but de cette pensée, de penser à lui, de se souvenir de lui dans le contexte de sa souffrance et de ce qu'il a enduré. Verset 3, afin que vous ne vous lassiez pas et que vous ne perdiez pas courage. N'est-ce pas là une parole magnifique? Si nous pensons à nous-mêmes et aux circonstances dans lesquelles nous sommes, nous sombrons presque. Si nous le regardons, si nous regardons à lui, si nous pensons à lui et si nous disons, oui Seigneur, ce que j'entends et ce que je vis est encore bien peu de choses en comparaison avec ce que tu as vécu. Je te remercie donc de me donner assez de force pour persévérer afin que je ne m'épuise pas et que je ne perde pas courage. Et c'est déjà ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 42, au verset 2, il ne poussera pas de cris et ne fera pas de bruit et sa voix ne se fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le conduit plié, il n'éteindra pas la mèche fumante, il fera connaître fidèlement le droit. Verset 4, lui-même ne s'éteindra pas et ne s'effondrera pas avant d'avoir fermement établi le droit sur la terre. Et c'est ainsi, toutes les choses dans le royaume de Dieu ont leur place. Verset 3, afin que vous ne vous lassiez pas et que vous ne perdez pas courage. Hébreux 12, la fin du verset 3. Vous savez qu'il est venu vers le peuple d'Israël, vers le peuple de son alliance et qui lui appartenait et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et je sais déjà aujourd'hui que lorsque s'accomplira ce qu'a écrit le prophète Zacharie, qu'ils regarderont au Seigneur qu'ils ont percé, transpercé et pleureront amèrement. Vous pouvez le lire, Zacharie 12. C'est bien écrit au verset 10. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né mort. Et en ce jour-là, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé et ils souffriront amèrement. Ils souffriront amèrement. Zacharie 12, verset 10. Ils se lamenteront. Je crois que le Seigneur Dieu achève son œuvre en ces jours. Je crois que nous devons prendre part à ce plan divin. Oui, que nous devons être une partie de ce plan divin, le bien que ce soit dans le bien ou dans le mal, les joies ou les peines, vous savez, sont très étroitement liées. Cela passe par des hauts et cela passe par des bas, mais cela passe avec Dieu. Et si, comme notre Seigneur, et comme nous le verrons souvent à l'avenir, nous avons entendu et cru les promesses de Dieu pour ce temps, alors le Seigneur doit recevoir en nous ce qui lui revient de plein droit, comme il s'est manifesté autrefois dans la chair, lorsque le résumé de toutes les promesses de l'Ancien Testament a trouvé son accomplissement. Et nous savons que lorsque les temps furent accomplis, cela se produisit et s'accomplit l'un après l'autre. Il en sera de même maintenant. Le temps est là, tout s'accomplira comme Dieu l'a dit dans sa parole. Il ne nous reste qu'une chose à faire, le remercier et reconnaître d'une part qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes d'un point de vue terrestre, comme l'herbe et comme la fleur des champs. Nous fleurissons, nous nous fanons, et puis un jour, nous ne sommes plus là. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est la parole que nous avons entendue, l'évangile de notre salut. Non seulement une parole de Dieu, pas seulement une parole de Dieu, mais la parole de Dieu en rapport avec notre salut, notre béatitude, notre rédemption, une parole qui contient la puissance de Dieu, oui, qui se manifestera en nous, et c'est déjà partiellement manifesté en tant que puissance de Dieu en nous. Que Dieu nous bénisse et nous donne des prières qui atteignent son trône de grâce, afin que nous puissions vraiment parler avec Dieu comme un ami parle à son ami. Lui dire tout ce que nous ressentons et ce que nous pensons, simplement nous exprimer avec lui, et il nous comprendra. Même les soupirs et les pensées du cœur que nous n'exprimons pas, il en prendra connaissance et ne pourra faire autrement que d'accomplir la parole qu'il a donnée à son peuple pour ses jours finaux. Car il veille sur sa parole pour l'accomplir au temps convenable. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, c'est une semence divine qui est déposé en nous. Et si toute chair est comme la fleur de l'herbe et se fane, la parole de Dieu demeure éternellement. C'est l'évangile de notre salut que nous avons entendu et écouté. Seigneur fidèle, puisses-tu maintenant déposer en nous la plénitude de ta parole comme une semence, afin que quelque chose de nouveau et de divin puisse en sortir. Seigneur, je te remercie et te loue. Permets-moi de regarder à toi qui a tout supporté. Patiemment, tu as suivi ton chemin. Seigneur fidèle, je pense à toi en toutes choses, que je regarde à toi dans tout ce qui m'arrive, afin que je ne me lasse pas, que je tienne bon dans la foi et que je te fasse confiance. Donne-le à mes frères, accorde-le à mes sœurs, accorde-le à nous tous. Par grâce, au nom de Jésus. Amen.